Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Faustin Kodiasala. Il est journaliste et il est directeur de publication du journal Echo News paraissant à Kinshasa. Bonjour Faustin Kodiasala.
Oui, bonjour Guy Maté, bonjour à tous les amis avec qui on va partager ce moment.
Madame Gertrude Ndaya, elle est membre de la société civile, point focal du cadre de concertation permanent de la femme congolaise Kafko-Kassai orientale. Elle est coordonnatrice du centre féminin de formation et d'information pour le développement CFID en sigle. Bonjour Madame Gertrude Ndaya.
Bonjour M. Guy Maté et bonjour aussi à tous les intervenants qui sont avec moi dans cette émission.
Et en ligne depuis Pretoria, en Afrique du Sud, Dr Kwasi Yeboah, il est chercheur senior dans les programmes futurs africains et innovation de l'Institut d'études de sécurité de Pretoria. Bonjour Dr Kwasi Yeboah.
Bonjour M. Guy et bonjour à tous les éditeurs et bonjour à tous les intervenants.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Faustin Kodiasala. Il est journaliste et il est directeur de publication du journal Echo News paraissant à Kinshasa. Madame Gertrude Ndaya, il est membre de la société civile et point focal du cadre de concertation permanent de la femme congolaise et Kafko-Kassai orientale. Elle est coordonnatrice du centre féminin des formations et d'information pour le développement CFID en sigle. Et en ligne depuis Pretoria en Afrique du Sud, Dr Kwasi Yeboah, il est chercheur senior dans les programmes futurs africains et innovation de l'Institut d'études de sécurité de Pretoria. Au menu de cette émission, clôture du séminaire du gouvernement souminois avec comme question et après, les défis du développement de la RDC et enfin les attentes des Congolais vis-à-vis de la justice, notamment les dossiers de détournement des deniers publics. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du procès Nanga et consorts. En effet, au procès de Corneille Nanga et consorts, 2 des 5 prévenus ont plaidé coupables. Ils ont affirmé avoir créé l'Alliance Fleuve Congo pour conquérir les pouvoirs par tous les moyens possibles car rien ne marche dans le pays. Ils l'ont ouvertement déclaré au cours de l'audience publique de ce jeudi devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Celle-ci a débuté l'instruction des préventions des trahisons et participation au mouvement insurrectionnel dont ils sont accusés. Faustin Kodiasala, ces procès ne risquent-ils pas de produire des effets contraires? Est-ce que ça ne va pas constituer, n'est-ce pas, une sorte de tribune libre de l'ACM23 qu'il pourrait utiliser pour faire passer son message et pour, n'est-ce pas, faire connaître ses revendications?
Bon, merci Guy pour la question. Évidemment, vos inquiétudes sont tout à fait justifiées. Et c'est même ce qu'on a senti hier avec le témoignage glaçant des deux prévenus qui se sont justement, comme vous l'avez dit, servis de la cour de cette tribune qui leur a été offerte en direct en plus de la télévision nationale pour faire passer leur message. Évidemment, c'est le grand dilemme dans lequel se trouve maintenant Kinshasa, parce qu'on ne sait pas exactement est-ce qu'il faut continuer à auditionner ces gens-là en public, est-ce qu'il faut continuer à les faire en direct sur les antennes de la télévision nationale, parce qu'il ne faudrait pas que, quand même, que l'État leur offre une tribune sur un plateau d'or pour faire passer leur message, ce qui va certainement démobiliser les gens qui sont au front. Évidemment, c'est tous les dilemmes, et je suis sûr que c'est par rapport à tout ça que même la composition de la Cour a opté pour la délocalisation du procès vers un autre lieu que la prison centrale de Ndolo, et que probablement, selon les échos qui nous sont parvenus, probablement le procès pourrait être à huis clos, pour éviter évidemment ce genre de débordement, pour éviter à ce que des gens qui ont pris les armes contre la République, les gens qui se sont rebellés contre la République, se retrouvent en train de faire passer librement leur message de démobilisation, leur message de haine, évidemment, parce que ce qu'on a entendu hier dans le procès, c'était inacceptable. Quand les gens se disent, non, voilà, vous, à partir de qui, vous faites de la stigmatisation, vous, à partir de qui, vous considérez que tout celui qui parle soit il est rwandais. Ça, ce sont des messages qu'il ne faut même pas admettre dans un État qui se veut démocratique. Je crois pour préserver la paix intérieure et pour préserver ce vivre ensemble, moi, je suis tout à fait d'accord que la Cour opte pour une autre stratégie. Le procès à huis clos, moi j'estime que ça vaut la peine parce qu'il faudrait pas que ces gens-là se retrouvent dans un environnement où ils sont libres de dire n'importe quoi. Parce qu'on a l'impression que, parce que hier en fait on avait en face de nous des gens apparemment des drogués qui ne s'inquiètent de rien, des drogués qui sont prêts à tout dire évidemment. Bon. Je crois par rapport à tout ça, c'est le grand dilemme dans lequel est Kinshasa. Est-ce qu'il faut continuer avec des procès diffusés sur les antennes de la télévision nationale? Moi, à mon avis, je crois qu'il faut arrêter, continuer avec les huis clos, évidemment donner la chance à tout le monde de pouvoir se défendre, parce que jusque-là, même si les gens ont plaidé coupables, mais il faut quand même aller en profondeur, s'intéresser à ce qu'ils tiennent, comment ils opèrent. Je crois que ça pourra peut-être permettre aux services militaires, aux services civils, de comprendre les rouages internes de ces mouvements rebelles, l'AFC, l'M23, ainsi de suite. Évidemment, mettre en place des stratégies pour contenir toutes ces rébellions.
Merci.
Voilà ce que je pouvais dire à ce stade.
Merci, Madame Gertrude Dendaya. Il n'est pas souvent facile de plaider coupable, mais ces deux prévenus l'ont fait, ils ont plaidé coupable. Qu'est-ce que cela vous inspire, Madame Gertrude Dendaya?
Comme vous le dites, il faut dire que le procès d'hier, là, ceux qui ont intervenu et plaidé coupable, c'est rare, hein, c'est rare que quelqu'un plaide comme ça coupable et dans un dossier d'aussi haut niveau. Mais on dirait que ces gens, ils ont trouvé, comme l'a dit mon prédécesseur, une tribune pour faire l'apologie des actes qui sont en train de poser dans cette rébellion. Hein, on dirait qu'ils veulent attirer l'attention de la population congolaise sur leur forfaiture et on dirait que ça leur fait plaisir. Et comme la Cour, en notant tout ça, a décidé de délocaliser le procès, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'il y a beaucoup d'âmes faibles, hein, d'esprits faibles qui risque de croire que ces gens sont dans le droit chemin et ça risque de démobiliser nos troupes qui sont au front. Ils sont en train de désinformer la population et ils risquent qu'il y ait des gens, des Congolais facilement trompés qui peuvent aller dans cette direction-là. Alors que les actes qu'ils ont posés, ce sont des actes de haute trahison qui mettent en danger l'existence même de la nation congolaise. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là.
Merci, docteur Kwasi Yeboua. Est-ce que vous comprenez l'attitude de ces prévenus, apparemment déterminés à faire valoir leur cause?
Oui, prof, merci. Difficile de comprendre, mais en même temps, c'est comme si ils sont prêts à se sacrifier parce que avec plaider coupable dans un tel procès, vous risquez la peine de mort. Mais en même temps, ils veulent se sacrifier et puis faire passer leur cause. Mais je pense que les autorités aussi ont bien raison de essayer de montrer ce procès. En même temps, ça va servir d'exemple pour ceux qui ont ces intentions de prendre le pouvoir par des moyens illégaux. Si vous avez, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, vous voulez instaurer la démocratie, instaurer la bonne gouvernance, ben, il y a des voies plus appropriées pour dénoncer toutes ces choses-là. Et la voie des armes ou bien de la rébellion ne doit pas être tolérée. Et donc, je pense que il faut juger ces personnes. Et l'objectif des autorités, c'est vraiment pour que ça serve d'exemple. Il faut taper fort, comme on le dit, pour servir d'exemple, pour décourager tous ceux qui ont ses intentions, parce que le pays a tellement souffert depuis des années 90 avec ses rébellions, de nombreuses rébellions à un point fini. Et donc, une fois qu'il y a un procès qui va à cet endroit, il faut taper fort et pour décourager tous ceux qui ont ses intentions.
Merci, il faut taper fort, comme on venait de le dire. Et on prend une petite pause avec justement Luta Continua de Myriam Makeba et on revient tout de suite après. C'était Aluta Continua avec Myriam Makeba, dit Mama Africa. Elle est née le 4 mars 1932 à Johannesburg en Afrique du Sud et morte le 9 novembre 2008 à Castel Volturno en Italie. Une chanteuse d'ethno-jazz et une militante politique sud-africaine. Paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. Clôture mardi dernier au Palais de la Nation du séminaire gouvernemental. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est la recommandation du chef de l'État aux membres du gouvernement participant à ces assises. À l'issue de cette grande messe gouvernementale, 13 recommandations ont été formulées et des lettres de mission remises à chacun des membres du gouvernement. Pour le président de la République, les enseignements tirés de ces travaux et coulés sous forme des pactes d'engagement citoyen doivent être appliqués au quotidien dans l'objectif d'obtenir des résultats. Faustin Kodiasala, vous êtes journaliste et vous êtes directeur de publication du journal Econews paraissant à Kinshasa. Vous avez souhaité nous parler de la clôture du séminaire du gouvernement sous Minois en vous posant cette question et après, on peut savoir pourquoi.
J'avais souhaité que nous échangions autour du séminaire du gouvernement parce que, bon, évidemment, vous savez, c'est le premier gouvernement du deuxième quinquennat du président de la République, Félix Tshisekedi, et surtout qu'avec tout le temps qu'on a pris pour attendre enfin la nomination d'un premier ministre, suivi de la formation d'un gouvernement, avec toutes les urgences qu'il y a dans le pays, évidemment tous les regards sont tournés vers Madame la Première ministre, surtout que c'est la première femme à être nommée à ce poste-là. Et là, l'avantage en plus d'avoir été déjà ministre, pas dans n'importe quel ministère, mais ministre du plan, parce que dans un gouvernement, quand on est ministre de plan, on suppose qu'on a une vision globale de toutes les actions du gouvernement. Et quand, juste après la formation de ce gouvernement, dans leurs nouveaux habits de ministre, que Madame la Première ministre ait convoqué enfin un séminaire gouvernemental, on doit quand même se poser quelques questions. Parce qu'il ne faudrait pas que ce séminaire soit juste un rituel où les gens viennent et qui changent, évidemment. C'est vrai que à entendre le discours d'orientation du président de la République, suivi de celui de Madame la Première ministre elle-même, et même le discours de clôture, on sent que quelque part, Madame voudrait assez qu'on se démarque un peu de vieilles pratiques. Et quelles sont ces vieilles pratiques? Parce que moi j'ai aimé quand il a martelé que, au niveau du gouvernement, la coordination doit être assurée par elle qui est la Première ministre. Parce que tout ce que nous déplorons aujourd'hui, des contrats qui sont signés à gauche et à droite, on s'est bien rendu compte que non, la plupart étaient gérés à l'insu de l'ancien contrat de forage, de contrat de lapadaire. En fait, il y en a beaucoup. C'est comme si dans l'ancien gouvernement, il y a des ministres qui évoluent à un électron libre. Et quand Madame tape du poing sur la table, rappelant à ces ministres que désormais, le chef d'équipe, c'est moi. C'est-à-dire, vous ne devez rien entreprendre sans que je ne sois au courant. Ça, évidemment, on doit applaudir. Et quand par après, il pousse ces ministres à se sentir au service du peuple, pas en étalant l'opulence ou en se considérant comme les gens les plus importants de la République. Parce que chez nous, on doit en fait arriver à ramener nos politiciens à comprendre que quand on a une charge publique, on est au service du peuple. C'est vrai que chez nous, tout se passe un peu à l'envers. On suppose que quand vous êtes nommé ministre, il y a même la famille qui organise une grande fête, on vous couvre de poudre, ainsi de suite, parce qu'on se dit au moins, maintenant c'est notre tour, on peut se servir à la mangeoire publique. Ça, ce sont des comportements, ce sont des attitudes qu'on doit bannir. Et au niveau du séminaire de gouvernement, évidemment, on a senti cette volonté-là. Déjà au niveau de Madame la Première ministre, qui a reçu sans doute le soutien du président de la République, on a senti que réellement, on veut sortir des sentiers battus, on veut se débarrasser un peu de ce vieil homme qui a fait que un gouvernement continue à être le plus passif possible, alors que les fossés de la pauvreté se creusent, alors que le pouvoir d'achat de la population ne fait que s'amenuiser, alors que les grands défis sont là, et des gens sont dans leur bureau climatisé, considérés comme des privilégiés de la République, et ils sont en rupture avec la société, c'est-à-dire les bas de la société. Je crois, avec le séminaire du gouvernement, je l'espère en tout cas, qu'il y a une volonté d'aller l'avoir. Mais maintenant, il faut maintenir le rythme. Parce que chez nous, généralement, quand vous sortez d'un séminaire, vous prenez des recommandations, et ces recommandations finissent généralement dans les tiroirs. Il y a des recommandations qui ont été faites, une dizaine d'ailleurs. Il faut qu'on sente que réellement, après ce séminaire, il y a quelque chose qui va bouger dans le bon sens.
Faustin Kodiasala.
Oui, oui, je vous...
On se rappelle tous les autres séminaires, notamment celui du gouvernement Ilukamba, celui du gouvernement Samalou Kondé. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer qu'en dépit des recommandations pertinentes, n'est-ce pas, issues de ces précédents séminaires, ces expériences n'avaient pas produit des résultats escomptés, dans ce sens que des antivaleurs telles que les collages des recettes publiques, la corruption, les détournements des deniers publics, les népotismes, ainsi que les clientélismes sont toujours de mise. Comment vous expliquez le fait qu'on ne soit pas en mesure d'appliquer ces recommandations pertinentes?
Bon, moi je crois que c'est un problème de leadership. C'est pourquoi j'ai insisté au début de mon intervention, j'ai insisté à ce que ces séminaires, en tout cas celui organisé avec le gouvernement soumis, ne soit pas un rituel, parce que les rituels, vous les avez cités, on a connu chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a un séminaire. Chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a un séminaire d'immersion, soi-disant, pour rappeler aux ministres, à leurs excellences, qu'est-ce que l'État attend d'eux exactement. Évidemment, quand vous posez la question de non, mais il faudrait pas que nous nous retrouvions dans la même configuration de séminaires antérieurs, là, je vous donne tout à fait raison. Et la réponse est bien simple, c'est ce que j'ai dit. Il y a d'abord un leadership et une volonté politique réelle. Le leadership, c'est quoi? Ça commence d'abord par l'implication total du premier ministre, de madame la première ministre, parce que c'est elle qui est allée devant l'Assemblée nationale. C'est elle qui est allée défendre le programme du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Et c'est elle qui a obtenu l'investiture de son gouvernement devant l'Assemblée nationale. Évidemment, c'est notre système politique qui est un peu hybride, c'est-à-dire, c'est le premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée nationale. En tout cas, lui-même doit répondre du président de la République qui l'a nommé. Évidemment, c'est une entorse, je ne suis pas juriste, je ne veux pas me lancer sur ce chemin-là. Mais on doit, entre les deux animateurs clés de l'action gouvernementale, c'est-à-dire au premier rang desquels il y a le premier ministre qui reçoit la bénédiction du président de la République, il faudrait que les deux là donnent l'impulsion nécessaire. C'est pourquoi j'insiste sur le leadership. Quand les membres du gouvernement se sentent suivis, se sentent contraints au résultat, comme ça a été dit avec le séminaire, quand ils se disent que non, j'ai un deadline à atteindre, parce qu'on nous a dit que les ministres seront finalement jugés trimestriellement. Trimestriellement, ça veut dire que quand vous serez jugé, il y a soit une sanction négative, soit une sanction positive. Il faut qu'ils sentent qu'il y a une contrainte qui est exercée sur eux.
Merci.
Et il faudrait surtout, et c'est là où je trouve important, il faudrait que madame la première ministre soit réellement ses chefs d'orchestre, et non pas continuer à subir des choses qui vont venir de part et d'autre. Parce que ce qu'on a reproché au gouvernement antérieur, ce sont ces ministres qui se considèrent comme état totalement extraordinaire, et qui peuvent poser des actes sans que le Premier ministre ne soit au courant.
Merci.
Parce que tous les détournements que nous dénonçons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des ministres qui ont signé ça, que ça passe préalablement au niveau de la primature. Donc, le secret, c'est juste une réelle volonté politique et surtout une réelle implication des deux têtes d'affiche du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre et le Président de la République, de façon à ce qu'il y ait un leadership fort qui puisse contraindre les autres à suivre le mouvement.
Merci Madame Gertrude Ndaya. Je rappelle que vous êtes membre de la société civile et point focal du cadre de concertation permanent de la femme congolaise Kafko Kasaï Orientale. Vous êtes coordonnatrice du Centre féminin des formations et d'informations pour le développement CFID en sigle. À la clôture de ce séminaire, les membres du gouvernement ont signé chacun un acte d'engagement pour bien exécuter et améliorer les tâches relatives à leurs fonctions. Peut-on dire qu'ils sont liés par l'engagement qu'ils venaient de prendre et que donc ils n'ont pas droit à l'erreur?
Exactement, parce que quand on prend des engagements, un homme qui se respecte doit pouvoir honorer ses engagements. Donc ce sont des engagements qui les lient pour qu'ils puissent remplir les responsabilités qui sont les leurs et mettre en exécution les recommandations qui ont été retenues au niveau de pendant le séminaire du gouvernement, parce que c'est ça qui va permettre de pouvoir les évaluer. Donc le premier ministre, en tant que coordonnateur des actions du gouvernement, doit pouvoir assurer le suivi de chaque ministère vis-à-vis des engagements que chaque ministre a pris, et comme ils ont décidé de faire régulièrement des évaluations. Il faut que ces évaluations effectivement soient réalisées pour pouvoir donner des sanctions, soit positives, soit négatives. Donc il ne faudrait pas que ça reste sur le plan des écrits, mais il faut que effectivement ces recommandations, ces engagements passent à l'exécution. C'est ainsi qu'on pourra apprécier la prestation de chaque ministre.
Merci. Docteur Kwasi Yeboua, vous êtes chercheur senior dans les programmes Futurs Africains et Innovations de l'Institut d'études de sécurité de Pretoria. On a senti Madame la Première Ministre s'impliquer activement dans ce séminaire, mais on sait que l'une des difficultés, n'est-ce pas, que connaissent beaucoup des chefs du gouvernement dans ces pays, dans notre pays, c'est les fameux gouvernements parallèles. Est-ce qu'on peut espérer que cette fois-ci tout se fera sous la coordination de la Première Ministre? Est-ce qu'on peut espérer que cette fois-ci elle sera la véritable chef d'orchestre, les termes utilisés par Faustin Kodiasala?
Merci beaucoup. C'est ce que nous tous on espère. Je suis d'accord avec les autres intervenants. Et on salue ce séminaire du gouvernement. Et comme la Première Dame l'a dit, elle veut des résultats. Parce que la RDC souffre d'un problème majeur, c'est la gouvernance. Et si vous voyez ce séminaire, toutes les déclarations, les décisions tournent autour de la bonne gouvernance. Donc c'est un problème majeur en RDC. C'est vrai, les déclarations, on espère que ces déclarations qui ont été faites, des décisions, ne seront pas juste des décisions, mais que ça va se concrétiser sur le terrain. Parce que la population a besoin des actions concrètes pour améliorer ses conditions de vie. C'est pas normal comme un pays comme la RDC, qui a tellement de ressources et sa population parmi les plus pauvres dans le monde. Quand vous prenez la RDC en Afrique, elle a, après le Nigeria, c'est le pays qui a le plus grand nombre de pauvres. C'est pas normal avec de telles ressources. Et c'est le problème majeur de la RDC, c'est la gouvernance, la corruption et tout ceci. Et c'est ce que la première dame, la première ministre veut s'attaquer. Et on espère que son équipe vraiment va l'accompagner à atteindre ses objectifs. Et que cette fois, on ait des dirigeants qui ont faim du développement et non des dirigeants qui viennent pour se servir. Et vraiment, c'est un problème majeur en Afrique. Quand vous prenez les indicateurs de gouvernance de la RDC, c'est vraiment classé au bas de l'échelle comparé à plusieurs pays africains. La mauvaise gestion des ressources, la corruption, le patronage et tout ceci caractérise la gouvernance de tous les gouvernements depuis l'indépendance dans ce pays. Et donc, cette fois-ci, il faut que ces décisions se concrétisent et non pour à chaque fois passer de séminaire en séminaire et ne rien avoir sur le terrain. Et donc, la population attend désespérément des actions concrètes et on espère que cette fois-ci, la Première ministre sera au contrôle et aussi permettra d'avoir des résultats sur le terrain pour que le président aussi des visions, les objectifs de développement du président et puis se concrétiser sur le terrain pour que vraiment la population puisse bénéficier des ressources de ce pays qui sont tellement abondantes.
Merci. Merci. Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, le musicien du gospel Mike Kalambayi s'est produit ce samedi 27 juillet au stade des Martyrs ici à Kinshasa. On va écouter l'une de ses chansons intitulée Lamentation et on revient juste après.
Papa, tokende lisusu epai na nani? Yo moki lo sambo, yo kakolele ya motemo ezoki mingi. Kolo Yesu, yo mwana na Nzambe. Yo nde mitema ya basantu etalelaka. Bayaki na yo bazongaki pamba te. Papa malamu boyebi olata mpasi ya bana. Ozali moko kuyaza na makoki ya kopesa biyano na baike na mbala moko. Oh Yesu yo, Yesu yo, papa malamu Yesu Nzambe ya solo. Ya etimelo na Nzambe yo, Yesu soli na ngetangi pesangi. Oh Yesu akomina sisa yo. Oh Yesu, pizoli eta
tina motema na kabali solongo na nani atana yebisi moto akoko komate patina motema miso moto komandenge nini na leli lokola yowane na Patmos na nyalinga harongolanga mpasi oyo naya na leli bangusanga maya miso Yesu Yesu mwana nzambe motema na ngai eleli minge nayebi ozali kolo elika ya basantu nyonso motema epona te yo yokolo ya bomoi na ngai nayebi ozali kolo elika ya basantu nyonso motema epona te yo yokolo ya bomoi na ngai oyesalaka ngai mpasi na motema mekulusu omemaki yango Yesu mwana zale likola na motisa oyo nyonso elelisaka ngai zala papa nazala mwana ngolu na yo eboma ngai mizoli na ngai bapetangi mingi petangi mingi na Bible mpo na ngai bilaka esitonie na gangi o secour mongongo ekauki ngai nalingi nayeba nini ezopekisa yo sala soki mpe lisumu loba natumbela mpo mpasi oyo nazokoka lisusu te soki mpe abamoki to mpe bakoko na ngai bazekulusu makilosopaki mpo na ngai accompli maloba na yo oniyanga likambo Yesu ezangi solution elema moto ya suke okolo elikya ya basantu nyonso yo
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire au sujet du procès Nanga et consorts à l'audience de jeudi à Kinshasa. Nous avons également analysé ce que pourrait être les retombées du séminaire du gouvernement sous minois. participe à cette émission. Fosse Kwadiasala, il est journaliste et il est directeur de publication du journal Echo News Paris 5 Kinshasa. Madame Gertrude Ndaya, elle est membre de la société civile Point Focal et du cadre des concertations permanents de la femme congolaise de CAFCO Kasaï Oriental. Elle est coordonnatrice du centre féminin de formation et d'information pour le développement CFIDE en sigle. Et en ligne depuis Pretoria en Afrique du Sud, Dr Kwasi Yeboua, il est chercheur senior dans les programmes futurs africains et innovation de l'Institut d'études de sécurité de Pretoria. Le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a signé mercredi 24 juillet les contrats de mandat avec les mandataires publics pour imprimer une gestion orthodoxe au sein des entreprises publiques. Ce document a été signé à Kinshasa conformément à l'article 17 de la loi numéro 08/010 du 17 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. Selon ces contrats, tout mandataire public devra rendre compte de l'exécution de son mandat dans les formes et délais prévus par les statuts et à chaque fois que les mandants le requièrent. Il a également l'obligation de faire preuve d'une gestion transparente, orthodoxe et axée sur les résultats. Docteur Kwasi Yeboua, vous avez souhaité nous parler des défis du développement de la RDC. On sait que vous avez, n'est-ce pas, fait une étude à ce propos. On vous écoute, Docteur Kwasi Yeboua.
Merci beaucoup. J'ai souhaité parler de ce thème. C'est en rapport aussi avec le séminaire du gouvernement. Et comme vous voyez, ça tourne autour de la bonne gestion, de la gouvernance et de la transparence. Et c'est ça, l'un des défis majeurs du développement de la RDC, c'est la gouvernance. Et c'est la mauvaise gouvernance qui fait que les ressources ne sont pas bien utilisées pour servir la population. Et ceux-mêmes qui sont chargés de collecter, par exemple, les recettes fiscales à cause de la corruption, ce qui est collecté, c'est pas tout qui arrive dans les caisses de l'État. Conséquence, l'État n'a pas les moyens de fournir des services socio-économiques de base à la population pour améliorer ses conditions de vie. Et donc, la mauvaise gouvernance est un défi majeur au développement de la République démocratique du Congo. Quand vous voyez les ressources naturelles de ce pays, c'est pas normal qu'elle soit considérée comme l'un des pays les plus pauvres au monde. C'est parce qu'il y a un problème de leadership, comme l'un des intervenants l'a dit plus tôt. Il y a un problème de leadership. Pas des leaders qui a faim du développement, mais des leaders souvent qui viennent se servir au lieu de servir le peuple. Et donc, quand vous avez une mauvaise gouvernance, ça affecte tous les autres secteurs. Et la pauvreté, l'éducation, la santé, et les infrastructures. La RDC a un problème majeur en termes d'infrastructures. Vous avez un pays comme qui a tellement de ressources énergétiques, mais c'est seulement 23% de la population qui a accès à l'électricité. Et même dans la zone rurale, c'est très faible. Et donc tout ça, c'est un problème d'infrastructures de transport. La croissance économique, quand vous voyez les perspectives de croissance de la RDC, elles sont bonnes, mais cette croissance n'est pas inclusive. Pourquoi? Parce que c'est une croissance économique qui est tirée par le secteur minier et qui ne crée pas assez d'emplois. Et donc, il y a très peu d'impact sur la pauvreté dans le pays. Donc, vous avez des jeunes qui sortent de l'école, qui n'ont pas d'emploi. Conséquence, ils se retrouvent dans le secteur informel et c'est ce qui perpétue la pauvreté. En même temps, le problème de santé, la population qui a très peu accès aux soins de santé et à la qualité de l'éducation. Et donc, il va falloir que la RDC puisse vraiment diversifier son économie. C'est un défi majeur. Que diversifier l'économie parce que l'économie est vraiment basée sur les exportations de matières premières, comme vous le savez, et donc qui subit les aléas, la volatilité des prix sur le marché international et qui rend difficile la programmation, la planification du développement. Et donc il faut diversifier cette économie pour pouvoir rendre la croissance le plus inclusive, pour donner du travail à cette jeunesse. Parce que la population est très jeune. Et quand vous avez une population jeune, surtout quand elle est éduquée et qu'elle n'a pas d'emploi, ça c'est source d'instabilité socio et politique dans le pays. Et comme vous l'avez dit, on a fait par exemple une simulation au pouvoir et ça a montré que vraiment il faut développer le secteur agricole, la bonne gouvernance et l'industrialisation, développer le secteur manufacturier. Ce sont des secteurs vraiment qui permettront de faire avancer le développement de ce pays, lutter contre la pauvreté et améliorer le niveau de vie de la population. Vous savez que plus de la moitié de la force de travail dans le pays se trouve dans le secteur agricole. Mais c'est un secteur qui est complètement abandonné, qui n'est pas développé, qui est soumis aux aléas des changements climatiques et autres. Et conséquence, tous ceux qui se trouvent là-bas, ils ont un faible revenu et c'est la pauvreté. Et donc, vraiment, il faut développer le secteur agricole et vous allez toucher ce pays. Les autorités pourront toucher la vie de millions, de la majorité de la population dans le pays.
Docteur Yeboah.
Allô?
Oui, docteur Kwasi Yeboah. Et au-delà de ces problèmes de leadership que vous avez évoqués, dans votre étude, n'avez-vous pas identifié d'autres facteurs, d'autres aléas qui peuvent expliquer le fait que on n'arrive pas dans ces pays à améliorer la gouvernance?
Ben, la seule chose que je dirais, c'est un problème, c'est le manque de volonté. C'est le manque de volonté. Il n'y a pas de secret. C'est le manque de volonté, un problème de leadership. Vraiment, il y a des leaders qui disent que vraiment nous allons changer ce pays, nous allons transformer la vie de notre population. C'est tout. Il faut la volonté. Il faut que vous avez la volonté, comme Madame la Première ministre dans le séminaire a dit que je veux des résultats. Mais il ne faudrait pas que ça soit juste des paroles. Il faut que ça se concrétise et que des dirigeants, des ministres et tout autre ne viennent pas juste pour se servir. Donc il y a un problème, il faut un leader qui coordonne des actions, qui attend vraiment les résultats, et qui exige la transparence et qui n'est pas dans le favoritisme et vraiment qui recrute des gens qui doivent servir sur la base du mérite. Il faut vraiment de la volonté. Quand vous regardez les pays de l'Asie qui ont réussi à décoller, la Corée du Sud, la Chine et autres, c'est une question de leadership. Il a fallu un moment où les leaders se disent voilà ce que je veux, voilà où je veux amener mon pays et je suis prêt, voici mon plan et tout, et à exécuter son plan. C'est ce qui s'est passé en Asie. La volonté, c'est le développement, c'est l'État qui a conduit ce développement.
Merci.
Et donc, c'est ce qu'on veut. On veut des leaders en Afrique qui ont faim du développement.
Merci. Madame Gertrude Ndaya, est-ce qu'il est difficile de mettre en pratique toutes ces solutions qui ont été jusque-là proposées par les chercheurs afin d'améliorer la gouvernance dans ces pays? Est-ce qu'il est difficile vraiment d'appliquer toutes ces solutions?
C'est pratiquement une question de volonté et une question d'engagement. Mais je voudrais ajouter aussi d'autres défis, donc des défis à relever. C'est entre autres mettre en place des mécanismes pour arriver à lutter contre la corruption. Parce que la corruption bat plein à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et ça aussi, c'est un frein au développement. Je veux citer également l'impunité. Parce que quand il y a beaucoup de laxisme, les gens commettent des infractions, ils ne sont pas punis. Eh ben, les autres sont tentés de suivre la même voie parce qu'ils vont se dire en définitive, bon, je peux faire n'importe quoi, j'ai de l'argent, je vais corrompre et ça va passer, je ne serai pas poursuivi, je ne serai pas sanctionné.
Merci Faustin Kodiatala. Le leadership, parce que ça a été évoqué ici par le professeur Yeboah Kwasi et Madame Gertrude Ndaya. Mais est-ce que le leadership à lui seul suffit pour, n'est-ce pas, impulser une bonne gouvernance?
Bon, merci. Merci Guy pour la question. Évidemment, avant d'arriver à cette question, à cette problématique de la bonne gouvernance, moi je voudrais d'abord répondre à la question principale du thème qu'on est en train de développer sur les contrats de performance qu'on a fait signer aux entreprises du portefeuille. Moi je dis, vous savez Guy, en cette matière-là, moi, je suis quelquefois un peu sidéré quand je vois nos dirigeants répéter presque les mêmes erreurs. Vous savez, ce qui tue aujourd'hui nos entreprises du portefeuille, c'est parce qu'on les a politisés à souhait, on les a politisés à outrance. Aujourd'hui, qui sont à la tête de ces entreprises du portefeuille? Ce sont des délégués des partis politiques. Or, c'est ce qui a été à la base du programme qui a été lancé il y a une dizaine d'années, soutenu par la Banque mondiale avec 180 millions de dollars, tenez-vous bien, pour soutenir la réforme des entreprises publiques. Et la réforme des entreprises publiques, c'était justement pour empêcher pour mettre ces entreprises à l'abri de toute emprise politique. Aujourd'hui, vous pouvez signer n'importe quel genre de contrat de performance avec ces entreprises publiques, ça ne va aboutir à rien, aussi longtemps qu'elles seront elles seront sous l'emprise, elles seront dictées, elles seront totalement régentées par des politiciens qui nous gouvernent. Évidemment, c'est là où j'arrive à votre question de leadership et de gouvernance. La gouvernance voudrait dire que quand, dans une organisation, on doit s'imposer des règles de gestion. Tant qu'il n'y a pas de règles de gestion, quand vous nommez un mandataire public qui ne répond pas seulement du ministre de tutelle, mais qui doit allégeance à la personne qu'il a placée à ce poste, vous ne devez pas vous attendre à un miracle. Aujourd'hui, ces entreprises-là, nos entreprises du portefeuille, comment ils fonctionnent? Ce sont pratiquement des canards boiteux. Essayez de consulter ne serait-ce que le compte de la DGRAD. Qu'est-ce que l'État récolte comme dividende de ces entreprises du portefeuille? Partout, il est actionnaire majoritaire. Rien du tout. Et même ces entreprises du portefeuille, le peu de ressources, le peu de revenus qu'elles génèrent, ce sont des revenus qui sont partagés totalement engloutis dans les charges sociales. La plupart des entreprises du portefeuille se sont protégées avec des conventions collectives qui fait que le peu de revenus qui est mobilisé est totalement partagé entre les mandataires, entre les syndicats, entre les agents. Si bien qu'en termes d'investissement, dans leur budget d'investissement, c'est nul. Allez par exemple à l'Office congolais de contrôle, qui est une entreprise totalement technique. Est-ce que vous pouvez comprendre que quand l'Office congolais de contrôle va investir dans ce matériel d'exploitation, il doit attendre un don de partenaires extérieurs? Mais vous ne savez pas combien ces entreprises brassent, comme en millions de dollars. Donc je crois qu'on doit se fixer des objectifs.
Merci.
Et la meilleure façon d'atteindre ces objectifs-là, il faut qu'on mette d'abord ces entreprises-là à l'abri de la main politique. Aussi longtemps que ces entreprises-là seront toujours sous l'emprise des politiciens, nous pouvons mettre en place de belles théories de développement, de belles théories de management, de belles théories de leadership. Mais tant que les politiciens auront entre leurs mains l'avenir de ces entreprises publiques, je me dis, mon frère, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Parce que la Banque mondiale l'avait tenté avec le projet PDSP qui a été géré par les COPIREP. La Banque mondiale avait injecté 480 millions de dollars. On a pratiquement jeté dans la fenêtre parce que l'objectif n'a pas été atteint. La Banque mondiale pensait peut-être qu'avec ça, on allait mettre ces entreprises à l'abri des politiciens de façon à ce qu'à mettre en place un nouveau management. Mais après, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop.
Merci.
Finalement, ce sont des politiciens qui rejoignent ces entreprises. Et c'est bien malheureux.
Merci. Merci donc. L'un des défis, n'est-ce pas, pour le développement de la RDC, c'est de dépolitiser les entreprises publiques.
Ça, c'est mon avis.
Merci, merci. On prend une petite pause en écoutant Princesse Julia de Luciana de Mingongo et on revient juste après.
Mama, yeah, oh, oh. Yoka mwana na yo na mosika kolela. Mama, Luciana, mama, mama, mama.
La zone
Anga wana mama moteme bete jitake Nakena suka moke nipo moka mono ya vampi nzolite Mokando kiba fanda moto mala mwa sanga kateo Oh ma, unana moni suria Maria, yala tamwese tuku mibale na moto Yatava banda mokili na makolo Lokola Maria mama wabasansu Lokola Maria mama na Yesu Kristu Mbambo Anga mwana fatu mote mebete likake Nake nasuka mokili pomota mono yanga mpizo lite Yesi kabato bafada mwasi kito kwa sanga kateo Koma Unana moni suria Maria me Yalanda mwese tuku mibale na moto Yaya tabambanda mokini na makono Loko na Maria mama wabasatu Loko na Maria mama na sayo Umao Yebisangana bomwana ogiko wapona mwasite Yebisangana pele susu sheriko wapona mongoteo Koma Zamba pesangane motema ya bolingo ya mingi Ezombo esa bona biso pe bato ya boye mami zalemi mama amona mpona yo ngana wa sheri zozo mpona yo basekinga majuya prinsese ya kayaka e motema oyanga ebolokeo mpona yo ngana koma mobola yo bakelanga bolingano na fulu ya lokote koma bilei nanga ya lobiko mpe ya molimo nao se mpona bolingo na yo mama e bisu ya motema nanga suza se mpona yo nyonyo nanga jabateo mwana sila yeyeye
sukwa mama e ezakelengi ata na nzungu akala mama
julia suki ya moto pene esekeli lokola monani boloma toya mama kobimelanga esekeli na yo te mumi oyango ezali fungola ya likolo ipananga kobola julia suki ya moto pene esekeli lokola monani boloma toyaka coma kobimelanga esekeli na yo
Princesse Julia de Luciana Litemo de Mingongo, que Papa Wemba aimait appeler Rossignol. C'est un ancien de Viva la Musica. Depuis plusieurs années, il fait une carrière solo en Europe. Je rappelle que nous avons dans cette émission Faustin Kodiasala, il est journaliste et il est directeur de publication du journal Eco News paraissant à Kinshasa. Madame Gertrude Ndaya, il est membre de la société civile Point Focal du cadre des concertations permanents de la femme congolaise CAFCO Kasaï Oriental. Elle est coordonnatrice du centre féminin des formations et d'informations pour le développement CFIDE en sigle et en ligne depuis Pretoria en Afrique du Sud. Docteur Kwasi Eboua, il est chercheur senior dans les programmes futurs africains et innovation de l'Institut d'études de sécurité de Pretoria. Le premier président de la Cour des comptes demande aux députés de renforcer l'arsenal juridique de la première institution supérieure de contrôle des finances en RDC. Jimmy Munganga l'a dit jeudi 25 juillet à l'occasion de la rentrée judiciaire de son institution au Palais du Peuple, en présence de la première ministre, des députés et de plusieurs personnalités politiques, judiciaires et des diplomates. Il a dénoncé la corruption et la fraude qui caractérisent la gestion de la chose publique. Madame Gertrude Ndaya, vous avez souhaité nous parler des attentes des Congolais vis-à-vis de la justice, notamment les dossiers de détournement des deniers publics. On vous écoute.
En tant que membre de la société civile, nous vivons dans la communauté et nous voyons comment la population vit. Nous sommes vraiment scandalisés parce que pendant cette période, sur les réseaux sociaux, on nous donne des informations sur des montants de détournement des deniers publics qui sont toujours équivalents en millions de dollars. Alors que pendant ce temps, la population est en train de vivre difficilement. Alors nous nous disons que quelque part, c'est une grande injustice. Quand nous voyons que les présumés détourneurs de deniers publics ne sont pas poursuivis et sanctionnés comme il se doit. On peut accuser aujourd'hui quelqu'un d'avoir détourné des montants équivalents en millions de dollars américains, la personne peut être interpellée pour un temps. On a l'impression qu'il y a un semblant de procès ou de justice qui est en train de se passer. Et quelque temps après, on voit que cette personne est en pleine liberté, n'est plus inquiétée et continue la vie comme tous les jours. Alors que, avec le budget de la République, quand nous faisons le calcul, le Congolais vit avec moins de $160 par an, ce qui fait moins de $1 par jour. Alors que ces millions pourraient servir à améliorer les conditions de vie des Congolais, augmenter l'enveloppe budgétaire et permettre à ce que la population puisse mieux vivre. Il y a les fonctionnaires de l'État qui ne sont pas pris en charge comme il se doit. Ils ont des salaires qui sont très modiques. La même chose avec les militaires, avec les policiers. Nous avons une guerre à l'Est qui nous coûte énormément cher. Et tout cet argent qui est détourné, si cet argent pouvait être canalisé comme il se doit, dans le trésor public et réparti selon, légalement selon les rubriques budgétaires, je pense que la situation irait beaucoup mieux. Donc nous sommes vraiment scandalisés de voir qu'une minorité de la population est en train de s'amuser à sa guise avec l'argent du contribuable congolais, alors que le contribuable lui-même est en train de souffrir. Le panier de la ménagère, n'en parlons pas. Moi, je suis une femme. Nous allons avec des gens qui, déjà au départ, sont quand même suffisamment bien rémunérés, mais nous nous approvisionnons sur le même marché. Mais ce que nous vivons en tant que population, c'est vraiment déplorable. Le panier de la ménagère est vraiment très minime, ce qui fait que c'est un centième peut-être de la population, donc la minorité là, qui est en train de bénéficier de tous les bienfaits des richesses de la République. Et ce qui nous choque, c'est que à chaque fois quand on veut parler de la République démocratique du Congo, c'est toujours cette qualification de pays extrêmement riche, population extrêmement pauvre. Quand est-ce que nous allons arriver à mettre fin à cette situation qui est en train de nous ridiculiser dans le monde entier? Moi, ce que je souhaite, c'est que ces gens-là soient vraiment poursuivis, que les procès aillent jusqu'à la fin, ceux qui sont vraiment déclarés coupables puissent payer, qu'ils puissent remettre à la République les fonds qui ont été volés, de façon à ce que ces fonds soient destinés, soient partagés aux personnes, à tous les Congolais, pour que nous puissions avoir une justice, jouir d'une justice distributive de la, des ressources de la République démocratique du Congo.
Merci, merci Faustin Kodiasala. Comment vous expliquez ces phénomènes que dénonce Madame Gertrude Indaya, le fait que même quand les faits sont établis par rapport à certaines affaires, n'est-ce pas, des détournements des deniers publics, cet argent n'est jamais récupéré par l'État congolais. Comment vous expliquez cela?
Merci Guy pour la question. Évidemment, moi je voudrais revenir d'abord au point de départ. Le point de départ d'abord, c'est ta question a commencé avec les recommandations du premier président de la Cour des comptes qui a appelé le Parlement à renforcer les dispositifs de contrôle pour leur donner plus de marge de manœuvre. C'est pourquoi moi je voudrais repartir sur ce point-là en disant, vous savez, vous suivez avec nous la polémique qu'il y a entre l'inspection générale des finances et la Cour des comptes. Et c'est mieux que quand déjà des institutions de contrôle comme ça n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les modes de fonctionnement, à dire que ça pose problème, même au niveau de ceux qui seront contrôlés, comment feront-ils confiance aux contrôleurs quand déjà à leur niveau ils ne se mettent pas d'accord? Moi je crois que c'est vraiment recommandé à ce que le Parlement, de qui dépend la Cour des comptes, puisse fixer clairement les limites de l'action de la Cour des comptes, de façon à ce qu'il n'y ait pas juxtaposition entre sa mission et celle de l'inspection générale des finances. Pour revenir à votre question sur tout ce qu'on dénonce comme détournement, tout ce qu'on dénonce comme gestion, mais qui ne sont pas suivis d'action. Bon, là, évidemment, le problème, c'est au niveau de la justice. Et même les chefs lui-même, les magistrats suprêmes, ont reconnu que notre système judiciaire est malade. Et c'est vrai, quand on est malade, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être guéri de sa maladie. Donc, il y a certainement une thérapie qu'il faut appliquer. La meilleure thérapie, c'est qu'il faut... Tout commence par la conscientisation, comme toujours. Mais au-delà de la conscientisation, il faut mettre les magistrats qui sont des humains à l'abri des besoins. Parce qu'un magistrat qui est sous-payé, un magistrat qui est mal payé, qui se retrouve dans un dossier de plus d'un million. Mais la tentation est grande, mon frère. C'est-à-dire, si nous voulons avoir des actions au niveau de notre justice, il faut que nous nous soucions aussi des conditions de travail des magistrats.
Merci, docteur Kwasi Eboua. On va finir cette émission avec vous. Comment faire pour que la justice ne soit plus au service des puissants, comme cela est vécu, pas seulement en RDC, hein, mais dans beaucoup de pays africains, même à travers le monde?
Merci beaucoup. Merci. Et comme vous le savez, tout au long de notre discussion, nous avons parlé de gouvernance comme un élément clé pour avancer le développement de la RDC. Mais pour avoir cette bonne gouvernance, la justice a un rôle clé à jouer. Il faut une justice indépendante qui dit le droit pour essayer de contrôler l'exécutif, pour instaurer la bonne gouvernance. Mais si vous allez dans un pays où la justice est aux ordres de l'exécutif, c'est clair que ses dirigeants, ses ministres, ses autres dirigeants peuvent détourner les deniers publics sans être inquiétés. Et donc, quand vous voyez les pays développés ou les pays où vraiment les ressources sont mieux gérées, c'est pas parce que les dirigeants n'aiment pas l'argent, comme on le dit, mais c'est parce que la justice est forte et indépendante. Et elle est là pour surveiller toute action, toute malversation financière et punir. Mais ce n'est pas le cas en RDC et plusieurs pays africains. Que la justice est faible, les institutions sont faibles. Et la justice elle-même, qui est censée contrôler ses dirigeants, est même impliquée dans des actions de corruption. Et donc, serait difficile vraiment d'instaurer la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption dans ces pays. Donc, je pense que la Première ministre doit vraiment œuvrer pour renforcer les institutions, telles que l'Assemblée nationale et la justice, pour des institutions fortes. Et comme l'intervenant précédent l'a dit, la conscientisation est très importante. Ces députés juges ont prêté des serments. Il faut respecter le serment. Et je ne pense pas que c'est le salaire qui fait qu'il y a la corruption ou la justice est faible. Parce que même les ministres qui sont bien payés dans ces pays continuent de détourner les deniers publics. Le salaire n'a jamais été suffisant. C'est un problème de conscience. Vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez croiser un policier blanc et un policier noir qui ont le même salaire. Mais le policier blanc va jamais accepter les pots de vin ou pour vous faire passer. Mais le noir, il accepte souvent. Et donc, c'est un problème de mentalité. Ce n'est pas un problème de salaire qui fait que la justice ne fait pas son travail.
Merci.
Et donc, vraiment, si vous êtes aux ordres, si vous voulez faire votre travail et que les exécutifs ne vous empêchent de faire votre travail, démissionnez carrément. En Afrique, on n'a pas la culture de la démission. Il faut qu'un juge en RDC dise, je voulais dire le droit, on m'a empêché de dire le droit, j'ai démissionné. Et c'est ce qu'on attend. Merci beaucoup.
Merci. C'est par là que nous finissons cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Gertrude Ndaya, docteur Kwasi Eboua et monsieur Faustin Kodiasala. Merci aussi à Jean-Claude Ntiala qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe Dijezadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Via Deli Kingaredo dans Aiko Langalanga et on se retrouve le samedi prochain.
Oui. Via di campo ya coni di mama, via di campo ya coso di mama. Nakenda kana tika kayo nandako Nabana nasenga kayo omatera Situ nasenga kamingi fidelite Situ nasenga kamingi fidelite Otalika useki obetika matamoliko Mabazo magai maso mapika la seda yo omo Gana keia ye Namo pepo na lota kato kwa mabe Napaya jana lota kato kwa mabe Kombe kombe ele kakala lopako Ika gimana ya soso Sola nyoso ya pepe Atombo na lamuki Toboko na litama Moko kite la suki Moto kila bazaka Motema olikolo nako baza baza yo Nika moya moya soli pia onsali Zonga, 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 hey. Zonga, 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 papa. Babanga na pepie, umbanga na bakusa. Nobanga na yakisi, batale la karikamo. Etikala ele pomo nene na motema. Mula na kangata enoki. Bato bapazani, peti pesili. Peti pesili, mama, hey.
Ona no ya suka ya koyo ke Oke ko eh Kubila kubila berita No
Amo pepora lota kato to mabe Apaya shana lota kato twa mabe Kombe kombe ile kakana lopako Ika gimana ya soso Saranyoso ya pepe na tomo na ramuki Toboko na litama Moto kite la suki Moto kina mazaka Motema olikolo na kopasa basa yo Ika moya koyo soliti ya osali Zonga 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 hee Zonga, 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 papa Babanga na pepie, kumbanga na bakusa Tobanganga ya kisi, batale la karikamo Etikala ele, pomonene na motema Mula na kangata enoki Bato bapazani, peti pesili Peti pesili, mama e
Yeah.
Yeah.